Chers frères et sœurs, ce passage biblique que nous venons d'entendre a connu des destins finalement assez différents au sein du christianisme, selon les courants, selon les sensibilités des différentes confessions chrétiennes. Dans la perspective catholique, ce texte fait partie des textes bibliques qui ont permis de fonder ce ministère particulier de l'évêque de Rome, premier parmi les pères, le pape. À la suite de Simon-Pierre, tout pape est celui qui reçoit la responsabilité de faire paître les brebis du Seigneur. Pour ma part, j'y verrai plutôt un passage biblique, non pas pour fonder le ministère papal, quoique après tout, pourquoi pas, mais j'y vois plutôt un texte qui fait la promotion de la grâce. Vous voyez, finalement, on reste tous un peu prisonniers de nos clichés théologiques. Mais il n'empêche que ce matin, j'aimerais vous parler, encore une fois, probablement pas la dernière, de la grâce. Et vous montrer de quelle manière ce texte déploie une pédagogie de la grâce qui peut nous éduquer pour être nous-mêmes agents de la grâce dans notre vie quotidienne. Le premier point que je relève, c'est que le Christ est agent de la grâce en ce qu'il nous rejoint dans notre misère. Ce texte biblique montre de quelle manière le Christ nous rejoint dans notre situation pécheresse, pour employer le vocabulaire théologique. Et pour bien comprendre cela, il est nécessaire de se souvenir de l'attitude de Pierre avant Pâques. Pierre est un disciple bien connu, il est souvent question de Pierre dans les évangiles. C'est un disciple plein de zèle. Il ne manque jamais une occasion de se faire remarquer auprès de Jésus. Jésus pose une question, c'est toujours le premier à répondre. On pourrait dire que c'est le bon élève de la classe. Quand Jésus vient à la rencontre des disciples en pleine nuit, marchant sur l'eau du lac de Tibériade, que fait Pierre ? Il demande si lui aussi il peut marcher sur l'eau. Et Jésus lui dit, eh bien, sors de la barque. Et il marche sur l'eau. Mais il est saisi par la peur, peur de la nuit, peur du vent, peur des vagues, et il coule à pic. Quand Jésus se met à laver les pieds de ses disciples, juste avant le dernier repas qu'il prendra avec eux, selon l'évangile de Jean, eh bien Pierre s'offusque et déclare « Tu ne me laveras jamais les pieds ». Sous-entendu, c'est à moi de te les laver. Vous voyez, un disciple plein de zèle. Et quand Jésus annoncera que tous ses disciples vont chuter parce qu'il va être arrêté et qu'il va mourir prochainement, Pierre rétorque que si tous chutent à cause de Jésus, lui ne chutera jamais. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez radical chez Pierre. Jamais, jamais, jamais. Ce à quoi Jésus répond le célèbre, « En vérité, je te dis que cette nuit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Et effectivement, Pierre reniera 3 fois Jésus, affirmant clairement qu'il n'a rien à voir avec cet homme-là. Ce qui permet d'être calme avec le ministère de Pierre, premier évêque de Rome. Mais là n'est pas la question. Cet épisode révèle donc que le Christ rejoint Pierre au cœur de sa misère, c'est-à-dire au cœur de son acte de trahison. Il rejoint Pierre dans l'épisode le plus sombre de son existence. Il le rejoint dans sa situation de misère spirituelle. Le Christ nous rejoint dans notre vérité, qui est faite de bien de mensonges, de bien des renoncements, de bien des trahisons et de bien des turpitudes. Comme Pierre, nous sommes capables de très grandes déclarations et nous sommes capables, la seconde suivante, d'être assez inconséquents finalement, en faisant le contraire de ce qu'on a dit, par manque de ce courage d'être qui est le propre de la foi. Au fond, on est capable de dire qu'on est responsable de tout, et dans les faits, on n'est responsable de rien. Le rédacteur de ce passage ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit, et certainement pas nous. Le rédacteur de ce passage veut attirer notre attention sur le fait qu'aux trois reniements de Pierre correspondent trois demandes du Christ en direction de Pierre pour qu'il dise s'il l'aime, oui ou non. Autrement dit, le Christ offre trois opportunités à Pierre pour effacer ses trois fautes du passé. Il y a là une pédagogie qui consiste à neutraliser les fautes du passé pour pouvoir passer à autre chose, pour ne pas être enfermé dans cette faillite du passé. Aux trois reniements de Pierre, le Christ propose de prononcer désormais trois déclarations d'amour, qui sont dès lors trois confessions de foi. En insistant bien sur le fait que le Christ pose la question une deuxième fois et une troisième fois, ce sont des précisions que nous avons dans le texte. Le rédacteur nous montre que le Christ fait ce qu'il faut pour que Pierre ne reste pas sur sa situation d'échec. Le Christ lui offre une nouvelle opportunité d'être le disciple que Pierre espérait être. Plein de zèle, effectivement. Le Christ incarne la grâce de Dieu en nous offrant de nouvelles occasions de donner à notre vie le sens de la justice à laquelle nous aspirons, de donner le sens de l'espérance à laquelle nous souhaitons adhérer. Eh bien, voilà quelque chose de vrai aussi dans notre vie quotidienne. Lorsque nous rencontrons des personnes qui ont fait des actes répréhensibles, qui ont eu des comportements malheureux, des paroles déplacées, offrons-leur la possibilité de neutraliser ce moment fâcheux du passé par un acte positif, par la possibilité d'orienter à nouveau leur existence vers quelque chose qui fait vivre, quelque chose de fraternel, quelque chose de gracieux. Et Christ, l'agent de la grâce qui nous sort de l'impasse de notre histoire. Quand nous avons le sentiment que ce que nous avons fait sera marqué toute notre vie sur notre front, l'agent de la grâce met une autre étiquette à la place. C'est ce que fera Dieu en direction de Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel. Et le déferlement de la vengeance est prêt à s'abattre sur Caïn. Alors, Dieu place un autre signe que celui de la culpabilité sur Caïn. Un signe qui le sauvera de ce désir de vengeance, bien compréhensible, mais pas théologique pour un sou. Première étape, Dieu nous rejoint dans notre misère. Mais le Christ va encore plus loin. Il ne se contente pas de nous rejoindre dans notre misère. Le Christ fait un pas de plus pour, au fond, nous sauver de nous-mêmes. Tout ce texte nous dit que la grâce de Dieu nous sauve de nous-mêmes. Non seulement il nous rejoint dans notre malheur, dans nos fautes, mais il nous rejoint dans notre incapacité à être à la hauteur de l'amour divin. Alors évidemment, cela n'est pas du tout visible dans nos traductions. Et donc, je vais être obligé, et ça ne sera certainement pas la dernière fois non plus, je vais être obligé de vous faire faire un peu de grec. Il y a pire comme châtiment. Alors, dans notre traduction de grec, vous avez entendu, Jésus demande trois fois à Pierre, « M'aimes-tu ?» C'est toujours le même verbe, « aimer ». Et à chaque fois, Pierre répond, « tu sais que je t'aime. » Mais le texte grec est porteur d'un enseignement spécifique qui exprime, avec une précision qui est celle de la langue grecque, la puissance de la grâce de Dieu. Et cela mérite que vous l'entendiez. Donc, je reprends cet épisode. Je vous ai dit à quel point on avait une sorte d'effet miroir. Tu m'aimes, oui je t'aime, tu m'aimes, oui je t'aime, tu m'aimes, oui je t'aime. Mais en grec, il y a plusieurs façons de parler de l'amour. Il y a l'éros, la philia et l'agapé. La philia exprime l'amitié. Quand on est ami de l'humanité, on est philanthrope. Si vous aimez la sagesse, vous êtes philosophe. La philia, c'est ce qui unit des amis, et je dirais que c'est l'amour réciproque. La philia, c'est l'ensemble des attentions que deux personnes se portent mutuellement dans une sorte d'interaction positive. Je t'appelle pour te souhaiter un bon anniversaire, tu me proposes tes services pour mon déménagement, je prends des nouvelles de tes petits-enfants, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est l'échange de rapports positifs, une sorte d'économie de l'échange. Mais il n'y a d'autres façons de parler de l'amour. Il y a par exemple l'amour agapé. Ce n'est plus la logique de l'échange, c'est la logique du don. L'amour agapé donne à l'autre ce dont il a besoin pour s'épanouir, sans attendre quoi que ce soit en échange, sans espoir de retour sur investissement. C'est la logique du don. Philia, échange. Agapé, don. L'éros, ça serait de prendre chez l'autre ce dont on a besoin. Je constate chez l'autre ce qui me fait défaut, je le désire et je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour le récupérer. Nous avons dans notre texte biblique la philia et l'agapé. L'agapé qui a toujours pour origine Dieu. Et si je reprends ce texte biblique en essayant de vous faire entendre les mots philia ou les mots agapé, qui sont aussi des verbes philéo, agapao, alors ce texte prend une autre tonalité et je vais vous en faire une lecture avec translittération. Jésus demande à Pierre: « M'agapis-tu ? » Et Pierre lui répond « Je te phileie. » Jésus demande à Pierre une deuxième fois « M'agapis-tu ? » Et Pierre lui répond « Je te phileie. » Jésus demande à Pierre une troisième fois « Me phileies-tu ? » Et Pierre lui répond « Je te phileie. » Vous entendez ce petit décalage par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Par deux fois, Jésus interroge Pierre pour savoir s'il transpire d'agapé pour lui, et Pierre lui répond « J'ai de la philia ». Et la troisième fois, Jésus demande à Pierre s'il a de la philia pour lui, et Pierre lui répond « Oui, j'ai de la philia pour toi ». Il y a là un autre élément de la pédagogie divine de la grâce. Non pas simplement rejoindre l'autre dans sa vérité, la plus sombre soit-elle, mais le mettre en situation de réussir quelque chose. Ne pas le rejoindre pour l'humilier un peu plus, pour l'accabler, pour le mettre en situation d'échec, pour lui faire prendre conscience que c'est un incapable, mais trouver les moyens de lui faire réussir quelque chose. Le Christ, c'est tout ce qui nous rejoint dans notre incapacité à être à la hauteur de l'amour de Dieu. Le Christ s'abaisse jusqu'à notre niveau, et au fond, c'est peut-être cela, l'incarnation en théologie chrétienne, jusqu'à notre niveau réel et non pas la hauteur fantasmée de notre vie. Et cela signifie que c'est à nous que Dieu s'intéresse et pas une sorte de projection, pas un personnage social où nous ferions toujours bonne figure. notre être le plus vrai qui soit, celui de la prière de repentance. Et le Christ vient nous chercher dans nos insuffisances, dans nos difficultés à répondre présent, dans nos difficultés à faire valoir nos talents. Et il nous rejoint non pour nous condamner, non pour nous accabler un peu plus, mais pour nous sauver de notre incapacité à pouvoir accomplir quelque chose de juste ou de positif. Et vous voyez, il y a là aussi une pédagogie que nous pouvons développer dans notre vie quotidienne face à des personnes que nous méprisons parfois parce qu'au fond, elles n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée à notre vie. Ne pourrions-nous pas les rejoindre dans leur vérité et leur permettre certains accomplissements en leur proposant des choses qui sont véritablement à la hauteur de leurs capacités? N'est-ce pas ce que font les enseignants quand ils accomplissent leur vocation d'enseignant? Non pas faire des choses inaccessibles qui permettront de pouvoir mettre des notes épouvantables, mais au contraire, faire preuve de pédagogie, c'est-à-dire élaborer un chemin qui permettra à l'étudiant, pas à pas, d'aller de l'endroit où il se trouve vers le but de l'éducation, en mettant à chaque fois des étapes accessibles, des objectifs atteignables. N'attendons pas trop de choses trop vite des personnes avec lesquelles nous vivons, nous travaillons. Essayons plutôt d'élaborer une pédagogie progressive. Par trois fois, le Christ dit à Pierre de devenir le pasteur de ses brebis. Cela signifie que le Christ offre un avenir à Pierre. Pierre qui était retourné à son passé de pêcheur de poissons. Au fond, c'est un peu comme si les 3 ans passés avec Jésus n'avaient servi à rien. Retour à la case départ. Le Christ fait une brèche en offrant la perspective d'un autre avenir, d'un avenir neuf. Le Christ ouvre l'avenir de Pierre en lui offrant une responsabilité sérieuse et en lui demandant de le suivre. Ainsi, le Christ, c'est ce qui nous fait passer d'une situation où nous avons de quoi avoir honte de nous, à une situation où nous sommes reconnus dans notre capacité à accomplir des actes glorieux. La parole de Christ sort Pierre de sa situation malheureuse et débloque un horizon qui jusque-là était complètement bouché. Il ouvre un nouvel avenir possible. Vous voyez, cela nous aide aussi dans notre façon de penser notre entraide, notre action sociale. S'agit-il de laisser les gens dans la situation où ils se trouvent, ou s'agit-il de faire effraction dans un horizon qui semble bouché, dans cette fatalité qui consisterait à vivre en permanence dans une situation que d'aucun juge invivable, mais au fond, en maintenant les choses en l'état, parce qu'on considère qu'il y a un ordre établi et qu'on ne peut pas grand-chose contre cela. De ce point de vue, le Christ est subversif. Il subvertit les ordres établis. Il considère que nul ne peut être assigné de façon définitive à une position, qu'elle soit sociale, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit dans l'ordre des loisirs, dans l'ordre de la profession. Jésus ne cache rien de ce qui attend Pierre. Alors, l'évangéliste Jean le dit d'une manière un peu euphémique. Pierre va suivre le chemin de Jésus, non pas d'un point de vue topographique, mais d'un point de vue existentiel. Lui aussi va avoir en quelque sorte son chemin de croix. Et quand l'évangéliste dit qu'il indiquait ainsi ce qui allait arriver à Pierre, c'était au sens où Pierre allait être attrapé et lui-même mis à mort. Suivre le Christ n'est pas une sinécure. C'est ce que nous pouvons entendre aussi de cet évangile. Il n'y aura ni le confort, ni la tranquillité à suivre le Christ. Suivre Jésus, ce n'est pas une gloire au sens du monde qui considère qu'on reçoit les honneurs des puissants et qu'on a toutes sortes de facilités au quotidien. Pierre mourra d'avoir suivi Jésus, mais il aura vécu. Il aura vécu en n'étant pas enfermé dans son passé de pêcheur de poissons. Pierre aura existé vraiment. Il aura accompli sa vocation vraiment. Il n'aura plus passé son temps à courir après son idéal de vie. Il l'aura lui-même incarné. C'est pour Pierre, ici même, le temps de la résurrection. Jusque-là, Pierre se berçait d'illusions. Désormais, Pierre est conscient de sa véritable nature, un être pécheur qui est néanmoins appelé à accomplir de grandes choses. Le Christ lui a permis d'ouvrir les yeux sur sa condition de pécheur au sens du péché, et il lui a révélé que cela n'est pas un obstacle à une vie bonne. Cela n'est pas un obstacle à une existence portée à sa plénitude. En le rejoignant dans la vérité de cette condition très divine, le Christ montre ce qu'est notre identité humaine. Il y a certes ce sentiment d'échouer parfois, et ça c'est très humain, mais il y a aussi cette dimension divine, cet appel à transcender ce constat pour pouvoir répondre oui à l'appel de la vie. Pour être vraiment pardonné de ce qu'on est, il faut d'abord être conscient de notre véritable situation. C'est ce que fait Jésus en interrogeant Pierre, de sorte que Pierre peut prendre conscience de la distance qu'il y a entre ce qu'il pourrait faire et ce qu'il fait effectivement. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va le rejoindre dans son incapacité à être à la hauteur de sa vocation personnelle, pour le mettre dans une situation de réussite et lui ouvrir un avenir, une perspective, lui donner une vocation. Il faut que nous soyons conscients de nos insuffisances pour accueillir le pardon de Dieu sur notre vie et être nous-mêmes ressuscités. Entendre l'appel qui nous est lancé par le Christ à le suivre. Voilà le sens de la vie spirituelle. Amen.